Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage, ce soir, cette question, l'influence des super-riches sur Donald Trump menace-t-elle la démocratie ? Après Joe Biden, c'est le groupe patriotique Millionaires qui s'en est inquiété aujourd'hui au forum de Davos. Ce groupe de millionnaires du monde entier qui prône une plus grande taxation des ultra-riches et qui affirme donc, comme l'ex-président américain, eh bien, que l'extrémisme de la richesse nuit à la confiance dans les médias et influence les systèmes juridiques. Dans leur viseur, l'allégeance des rois de la tech à Donald Trump, il s'appelle Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, ils sont dans cet ordre les trois hommes les plus riches du monde. Et ils étaient bien sûr aux premières loges lors de l'investiture du nouveau président américain. Ces nouveaux oligarques américains concentrent un pouvoir et une puissance d'influence énorme, notamment grâce à leurs réseaux sociaux de X à Facebook en passant par Instagram. Leur toute-puissance, alliée au pouvoir présidentiel de Trump, peut-elle bousculer, mettre en danger nos démocraties ? On en parle ce soir avec nos invités. En ligne avec nous, Maud Kessar, directrice de l'espace euro-atlantique de l'IRSERM, spécialiste de politique étrangère américaine et auteur de l'ouvrage « Les guerres de l'information à l'ère du numérique » paru au PUF. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à mes côtés dans ce studio, Olivier Burtin, maître de conférences en civilisation et histoire des États-Unis à l'université de Picardie. Jules Verne, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous les deux sur RFI. Pour commencer, Olivier Bertin, est-ce que les inquiétudes de Joe Biden et des patriotiques millionnaires sont fondées ? Est-ce que cette nouvelle oligarchie américaine est antidémocratique ?
Je crois que les inquiétudes sont fondées. Je crois pourtant qu'il faut aussi prendre un peu de recul. Vous savez, moi, je suis de nature assez sceptique en règle générale. Et même si c'est vrai que Trump, et c'est sa stratégie délibérée, a essayé de saturer un peu l'espace médiatique récemment avec toutes ces annonces de décrets officiels pris dans les quelques heures après son investiture, je crois qu'il faut se rappeler aussi que sa majorité est en fait très faible au Congrès, surtout à la Chambre des représentants, où il a que la majorité...
Trois voix.
Voilà, trois voix. Au Sénat, c'est la même chose. Donc, évidemment, il peut passer tous les décrets qu'il veut, mais ces décrets seront remis en question devant les cours. Ils l'ont déjà été pour certains d'entre eux. Donc, se rappeler qu'il y a une différence entre ce que Trump dit et ce que le gouvernement américain fait au final. Et que même si on est un peu dans l'actualité directement en ce moment avec les différents décrets, peu d'entre eux, en tout cas une partie d'entre eux, vont être transformés en réalité.
Maud Kessar, la démocratie américaine s'est toujours accommodée de ces milliardaires, de ces oligarques. On ne va pas citer Rockefeller ce soir, mais on pourrait. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'on s'inquiète que cette influence des super-riches menace la démocratie ?
Sans doute qu'ils seraient avisés de faire des distinctions entre ces super-riches, puisqu'on parle du groupe qui soutient Trump, que l'on qualifie aussi de groupe de super-riches de la tech et de techno-nationalistes. Et on a bien compris que ceux-ci se sont rangés en ordre de bataille derrière Musk, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, voire quelques mois pour certains d'entre eux, alors que les super-riches de Davos que vous nommiez en ouverture de cette émission, eux, ont soutenu les démocrates depuis plus d'une dizaine d'années.
Et c'est pour ça qu'ils s'inquiètent aujourd'hui.
Alors, ce qu'ils s'inquiètent, en fait, c'est tout cela est de bonne guerre et fait partie du théâtre informationnel que nous regardons avec peut-être des fois, comme le disait très justement mon collègue Olivier Burtin, peut-être avec un peu trop d'immédiateté. Donc, si on prend un tout petit peu de recul, on comprend qu'ici, il s'agit d'un jeu de pouvoir. Qui sont les super riches qui vont accéder au pouvoir et à la puissance ? Aujourd'hui, Trump a fait alliance avec les super riches de la tech, parce que ça lui permet d'occuper l'espace médiatique américain et l'espace médiatique mondial. Peut-être que les super riches, justement, de Davos, qui sont plus proches des démocrates, eux ont peut-être raté un tournant de présence. Ils n'ont pas fait le même pari. Aujourd'hui, leur combat, c'est de regagner le pouvoir et de soutenir une alternative politique possible. Ceci étant dit, puisque là on est dans un jeu à la fois politique et médiatique, pour revenir sur la question du danger pour la démocratie, Olivier Burtin rappelait à l'instant que Trump dit passe des décrets et on ne sait pas si finalement il n'y aura pas de difficultés ou de contrepoints ou de check au niveau du Congrès. Ce qui est particulièrement marquant à l'heure où nous parlons, c'est que Trump, avec son décret qui permet finalement de retarder la mise en application de la loi qui bannit TikTok, puisqu'on aurait un délai de 75 jours supplémentaires, là, on a un vrai déni de démocratie possible, car je rappelle que la loi qui bannit TikTok a fait l'objet d'un consensus bipartisan, républicain et démocrate au Congrès, et que là, aujourd'hui, on a un exécutif qui est en train de s'opposer à une décision qui est bipartite. Et c'est très intéressant de voir ce qui va se passer dans les 75 jours qui arrivent, parce qu'on a bien compris que ces 75 jours, ils sont donnés à Elon Musk pour qu'il s'empare d'une des plateformes les plus influentes sur le territoire américain et au-delà.
C'est la première récompense du président Trump à son ami Elon Musk, cette possibilité, comme il l'a évoqué la nuit dernière, de rachat de cette plateforme chinoise TikTok, Maud Kessa.
Ce n'est pas un cadeau qu'à Elon Musk, car Trump utilise la plateforme de Musk pour faire valoir ses idées et assurer sa puissance. Et Musk a besoin d'un modèle économique qui soit plus performant que celui de X, qui, comme tous les commentateurs et les personnes qui suivent finalement ces grandes entreprises de la tech vous le confirmeront, X, c'est pas le modèle le plus rentable de plateforme qui existe. TikTok est très intéressant par rapport à X. C'est pas le même public et c'est une diffusion plus large. Et aujourd'hui, le public à atteindre pour Musk et Trump dans la lancée de la campagne de 2024, c'est la jeunesse et les 13-28 ans qui utilisent TikTok en particulier. Donc, en fait, l'idée, c'est de s'emparer de TikTok pour les mêmes raisons que Trump voulait le bannir des États-Unis.
Depuis sa prise de Twitter, hein, rebaptisée depuis X, Elon Musk utilise cette plateforme pour relayer souvent des propos complotistes, mensongers, sans aucune modération. Est-ce que, Olivier Burtin, il s'est offert Twitter pour dominer en quelque sorte le débat public ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on voit dans sa prise de pouvoir au sein de Twitter le triomphe d'une idéologie libertarienne de droite que Musk avait déjà depuis le début de sa carrière politique, mais qui lui a permis, la plateforme Twitter devenue X, lui a permis vraiment de s'exprimer, de l'exprimer complètement. Et je crois que c'est aussi d'ailleurs cette domination par l'extrême droite des réseaux sociaux qu'on voit de plus en plus aujourd'hui qui explique un peu tout le discours très triomphaliste et très positif qu'on a eu depuis l'investiture de Trump et même depuis l'élection. Trump lui-même a plusieurs fois, ainsi que beaucoup de ses soutiens politiques, ont décrit sa victoire comme une landslide, comme une victoire très nette, très claire. Alors que c'est pas vrai, alors qu'il y a encore, même si c'est vrai que ses limites, les garde-fous qui pouvaient exister à son pouvoir ont diminué, certes, par rapport à 2016, c'est très clair, mais ces garde-fous existent toujours. Mais je crois que ce qui a permis à Trump et à ses soutiens de mettre en place un narratif aussi positif par rapport à sa victoire, c'est aussi le fait que, très clairement, la gauche aux États-Unis est sur la défensive, voire même en position de retraite, par rapport aux années 2020-2021, où on avait vraiment le mouvement Black Lives Matter et le mouvement MeToo en position de force. Là, on est plutôt dans une position de retrait. Et c'est vraiment la droite qui domine aujourd'hui, je pense, les médias aux États-Unis.
Est-ce que le ralliement des géants de la tech à Trump est un ralliement idéologique, celle d'une droite qu'on pourrait appeler réactionnaire et qui a donc convergé avec les cercles nationalistes et conservateurs des Trumpistes ?
Alors, il y a eu convergence, mais la convergence n'est pas complète. Je crois qu'on l'a vu en décembre, janvier, avec notamment le débat qui a eu lieu au sein du mouvement MAGA par rapport au visa H1B. En gros, pour résumer, la droite nationale populiste aux États-Unis est contre ces visas qui permettent à des travailleurs avec des compétences assez avancées de venir aux États-Unis travailler pendant quelques années. Alors que la tech est évidemment en faveur de ces visas, puisque ça lui permet d'importer plein d'ingénieurs de beaucoup de pays du monde qui viennent travailler à la Silicon Valley et qui sont essentiels pour les startups. Donc clairement, si convergence il y a, et il y en a dans certaines mesures, elle n'est pas complète. Il reste des points de désaccord assez criants. Steve Bannon, par exemple, qui est un peu le champion de la droite nationale populiste aux États-Unis, a déclaré la guerre à Musk. Donc ça, on le voit assez clairement. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus l'importance qu'ont eu les intérêts économiques aussi dans le ralliement de la tech, de certaines entreprises de la tech en tout cas, à Trump, dans le sens où on a quand même vu, sous le mandat de Biden, une poussée du mouvement antitrust, du mouvement anti-monopole, qui notamment a donné lieu à des poursuites judiciaires assez importantes contre plusieurs GAFAM, notamment Google, qui l'année dernière a été déclaré un monopole par un juge aux États-Unis. Donc, si vous voulez, la gauche américaine, qui pendant assez longtemps, en tout cas le centre-gauche, était assez amicale envers la tech et Silicon Valley, qui s'en servait comme l'une de ses soutiens les plus importants, notamment sur le plan financier, a entamé un virage un peu plus antagoniste vis-à-vis de la tech, qui n'est pas complet, mais qui est entamé, qui explique aussi, je pense, en partie la position de la Silicon Valley vis-à-vis de Trump.
Sans le citer, le président Macron a récemment accusé Elon Musk de soutenir une nouvelle internationale réactionnaire après les ingérences de ce dernier dans les élections en Allemagne et ses attaques contre le Premier ministre britannique Keir Starmer. Maud Kessar, Elon Musk est vraiment en soutien à cette internationale réactionnaire.
Alors Elon Musk ne se cache pas donc de son goût pour les mouvements nationalistes d'extrême droite, pas seulement en Allemagne, en Grande-Bretagne, mais aussi dans toute l'Europe de l'Est. On a vu le soutien aussi qui a été apporté par un certain nombre donc de leaders nationalistes américains, qu'ils soient Musk ou plus proches de Bannon, qui justement n'est pas en accord avec Musk, mais là au moins ils convergent avec ce qui s'est passé en Roumanie notamment, et puis aussi et surtout, en fait, Musk a bien travaillé ce terrain de cette international plutôt des mouvements nationalistes effectivement en Amérique latine également, puisque en fait les principaux invités de cette cérémonie d'investiture ont été des leaders sud-américains, notamment donc Milei l'Argentin qui a des liens avec Musk depuis plusieurs mois de plus en plus resserrés. Donc ça, c'est un mouvement que l'on pourrait voir comme idéologique, mais quand il s'agit de l'Europe, on voit aussi que c'est une stratégie qui est une stratégie non pas commerciale, mais de survie du modèle. L'idée étant derrière de pouvoir diviser les Européens au maximum, et notamment les pays membres de l'Union européenne, qui pourraient, de la même manière que le rappelait mon collègue Olivier Burtin, en rappelant ce que les démocrates ont voulu faire finalement aux géants de la tech, eh bien, il ne faut pas oublier que l'Union européenne a déjà sanctionné les géants de la tech et surtout veut réguler les plateformes, et au premier rang desquelles X. Et donc, c'est un souci majeur pour Elon Musk et pour certains de ses nouveaux inféodés comme Zuckerberg, qui est bien conscient de l'ensemble des risques qu'il prend pour ses plateformes, à savoir les sanctions et aussi le fait d'être soumis à la régulation. Et là, bien sûr, je fais référence au DSA. Donc, si on a finalement des groupes nationalistes qui sont en soutien de Musk à Bruxelles, ça sera véritablement au bénéfice de Musk et de ses intérêts économiques.
Donc il y a bien quand même une réelle volonté d'affaiblir l'Europe pour défendre leur business de la part de ces géants de la Silicon Valley.
Oui, et puis ça corrobore tout à fait la volonté aussi de Trump qui déteste l'Union européenne, qui ne comprend pas son fonctionnement, qui trouve ça totalement inutile comme l'ensemble finalement des organisations multilatérales qu'il fustige. Et donc Musk ici sert à la fois son projet ou ses intérêts donc directs économiques, mais aussi un projet politique, et celui de la désunion des Européens. Et c'est un projet politique qui est partagé aussi par d'autres grand autocrate, en fait, plus proche de nos frontières.
Olivier Burtin, que peuvent faire les Européens pour résister face à ces assauts de Trump et ces plateformes américaines?
Je crois, je ne pourrais pas donner de solution miracle, mais je crois l'une des attitudes les plus productives, à mon avis, à avoir par rapport à Trump, c'est, et je reviens un peu à ce que j'avais dit avant, c'est de ne pas réagir avec le même degré d'immédiateté et d'alarmisme qu'on l'avait vu durant le premier mandat de Trump. Se rappeler à chaque fois qu'il y a une différence entre ce que dit Trump et ce que fait le gouvernement américain, c'est vrai à la fois en termes de sa capacité à transformer ses propres désirs en loi et en politique publique, le fait qu'il ait une majorité très faible influence ça, bien sûr, limite ça de façon très forte, et on le verra d'autant plus d'ici à quelques mois, quand les campagnes pour les midterms ont commencé. Là, on assiste à un Trump qui est vraiment au sommet de son pouvoir, mais ça ne va faire que décliner dans les mois qui arrivent. Donc, se rappeler que des limites existent encore. Et aussi se rappeler que Trump lui-même, très souvent, ne se tient pas à ce qu'il dit. C'est-à-dire que très souvent, pour lui, ces différents déclarations sur les médias ne sont qu'une façon d'ouvrir une négociation, d'ouvrir un rapport de force avec soit ses alliés, soit ses ennemis, et qu'il ne se tient pas en fait à ses propres positions, qu'il évolue souvent de façon très rapide. On l'a vu par exemple avec TikTok, il s'était déclaré en faveur d'une interdiction complète de TikTok avant de changer d'opinion, et maintenant, comme on l'a discuté juste auparavant, être en faveur d'une prolongation de son maintien aux États-Unis. Donc, se rappeler qu'il y a toujours des avenues pour négocier avec Trump. Évidemment, il faut parler le même langage que Trump, c'est-à-dire un langage qui est très concentré sur les intérêts économiques, aussi que les intérêts militaires également. Mais voilà, il faut essayer un peu de mettre de côté ces prononciations souvent très outrancières sur les réseaux sociaux et se rappeler que ça reste quelqu'un avec qui, en règle générale, on peut discuter et arriver à un résultat, même si, évidemment, il représente tout ce que l'Union européenne a été construite contre, à savoir le rejet du multilatéralisme, des institutions internationales et du droit international aussi.
Maud Kessar, quelles sont les limites de ce rapprochement entre les patrons de la tech et Donald Trump? Est-ce qu'on va bientôt... on parlait du Congrès avec la faible majorité des Républicains, mais au-delà de tout ça, au niveau des hommes, est-ce que cette alliance peut résister à la bataille des égos, sans doute entre les deux personnages et peut-être même entre les rois de la tech eux-mêmes?
Absolument. Alors, je voudrais juste faire un point sur sur les Européens face à Trump. Les Européens doivent pouvoir parler d'une seule voix et résister. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils aillent dans le sens de la désunion. Ils ont un effet de levier possible, on l'a dit sur la réglementation. Et ça, c'est un atout pour les Européens dans ce bras de fer qui s'annonce avec Trump. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le dossier ukrainien sur lequel les Européens vont devoir être extrêmement unis. Donc, parler d'une seule voix, se mettre d'accord, c'est extrêmement important. Et ça, ce n'est pas simplement céder à l'hystérie Trump, mais c'est au contraire être organisé dans la négociation, tout en étant conscient, et c'est là que je nuancerai le propos précédent, que par rapport à Trump 1, on a des purges que Trump a annoncées qui sont aujourd'hui effectives et qui limitent de fait, en fait, la possibilité de négociation avec des interlocuteurs compétents dans les différents ministères concernés, notamment le département d'État, la défense et le département du commerce extérieur. Ouais. Donc c'est quand même important.
Quand, en deux mots.
Ces luttes intestines entre les différents leaders autour de Trump, de la tech ou des courants nationalistes, je crois qu'on l'a rappelé tout à l'heure, on a vu que Bannon était déjà monté au créneau.
Absolument.
Il a une interview intéressante.
On va conclure, ça ne peut qu'arriver très vite, cette guerre interne.
Internes, oui, et aussi avec le vice-président Gigi Vell.
Merci Maud Kessar, directrice de l'espace euro-atlantique de l'IRSERM, et merci à Olivier Burtin, maître de conférence à l'université de Picardie, Jules Verne.